lire dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. À partir du verset 9. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 9. C'est l'apôtre Paul qui parle. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été vaine. Dans certaines versions, dans ma version, c'est écrit, n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche. Dans d'autres versions, c'est écrit, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alors, Paul dit que la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans sa vie, n'a pas été inefficace. Notre exhortation, c'est 2 Corinthiens 6 aussi qui dit, nous ne devons pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Le Seigneur nous appelle à le servir de gloire en gloire. Dans Jean chapitre 15, il dit qu'il veut qu'on porte beaucoup de fruits, puisque lorsque nous portons beaucoup de fruits, c'est là que notre Père est glorifié. Donc c'est ce qui fait la gloire de Dieu. Ce qui fait la gloire de Dieu, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Et pour cela, il nous accorde sa grâce. Donc que personne ne dise, tiens, Dieu m'a mis le fardeau sur moi et il ne m'a pas donné de force. Non, il ne peut pas nous demander de porter beaucoup de fruits s'il ne nous a pas accordé sa grâce. Et l'apôtre dit, j'ai reçu la grâce de Dieu, parce que sans la grâce de Dieu, je ne serai pas ce que je suis. Mais sa grâce a été inefficace. Dieu, en quelque sorte, Dieu n'a pas à regretter de m'avoir accordé sa grâce, parce que je l'ai utilisée comme il faut. Ça a porté beaucoup de fruits. Il insiste bien, ce n'est pas lui, mais c'est ça. C'est la grâce de Dieu en lui qui a porté beaucoup de fruits. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vivent une situation de stagnation. Moi, j'appelle ça tourner autour du rond-point, roundabout, comme on dit ici, on tourne. Mais quand on tourne, on est actif. Ce n'est pas qu'on est inactif, on n'est pas sur place. On est actif, mais on est sur place en même temps. Donc en tournant autour d'un rond-point, on peut finir l'essence après plusieurs heures. Donc ça veut dire qu'on a été actif, sauf qu'on n'a pas avancé vraiment. On n'a pas porté les fruits que Dieu attend de nous. Et on entend plusieurs excuses. Les prédicateurs disent, ah, si je pouvais faire des miracles comme Paul, l'œuvre de Dieu aurait avancé. Il y en a qui disent, ah, si on pouvait avoir les moyens d'acheter une salle, on travaillerait mieux. Il y en a qui disent, ah, si je pouvais trouver un travail qui me facilite la tâche, je pourrais mieux servir le Seigneur. Ah, si le Seigneur me donnait une nouvelle voiture, l'ancienne, je l'aurais consacrée à l'œuvre de Dieu. Donc, il y a toutes sortes d'excuses que chacun se donne pour dire, je n'ai pas suffisamment de grâce, c'est pourquoi je ne travaille pas pour Dieu. Et Dieu nous dit, c'est faux. Il a accordé la grâce à tout le monde. Déjà, le fait d'être sauvé, c'est la grâce de Dieu. C'est écrit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est un cadeau de Dieu. Donc cette grâce ne peut pas être juste un ticket pour aller au ciel. Ça vient avec beaucoup d'autres choses. Mais ne serait-ce que la vie, la respiration, c'est une grâce. Et on peut en faire quelque chose. Et on voit par exemple deux cas, je vais citer beaucoup d'exemples dans la Bible. On voit par exemple Zacharie et Marie qui ont reçu la même grâce, celle de, d'être visités par un ange. Je crois le même ange qui les visite et qui leur dit des choses. Mais Zacharie n'a pas voulu accepter, a contesté, mais Marie a accepté. C'est ce que Paul dit, la grâce de Dieu en moi n'a pas été vaine. On peut recevoir la même grâce, mais il y en a qui vont l'utiliser pour porter du fruit pour le Seigneur. Il y a d'autres qui vont être stériles comme la terre d'Ésaïe 5. Dans Ésaïe 5, on parle d'une terre qui est arrosée. On a travaillé cette terre, mais cette terre n'a pas produit. Et on a fini par brûler cette terre par le propriétaire. Parce qu'on a tout fait. Et dans Jean 15 aussi, le Seigneur dit, quand quelqu'un ne porte pas du fruit, ben il est coupé. Donc c'est vraiment l'objectif de Dieu que nous portions du fruit. Maintenant, la responsabilité, il ne nous donne pas tout. Il nous donne juste la responsabilité d'être celui qui fructifie. Mais la grâce vient de lui. On doit utiliser cette grâce. Et Paul dit, chez moi, la grâce n'a pas été vaine. Mais dans 2 Corinthiens 6, il dit, je vous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, parce qu'on rendra des comptes par rapport à cela. Vous savez, même dans nos familles, il y a des gens, ou bien dans nos connaissances, il y a des gens à qui on a rendu service et ils vont considérer toujours que c'est insuffisant. On a tout fait pour eux. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un cousin, une tante, un oncle, une soeur, un frère. On a tout fait, on a tout donné. Mais on va toujours apprendre que quelque part, ils nous critiquent parce qu'on ne l'aide pas. Alors que nous, on pense avoir tout fait. C'est des gens finalement qui sont comparables à cette terre d'Ésaïe. Quoi que tu fasses en faveur de ces personnes-là, ça sera toujours insuffisant. Mais craignons que ce soit le cas aussi pour nous vis-à-vis de Dieu. On est toujours là à dire, c'est insuffisant. Si Dieu m'avait donné telle chose, j'aurais plus travaillé. Si Dieu m'avait fait ceci, s'il m'avait donné un mari, ça serait beaucoup plus simple. S'il m'avait donné une femme, ça serait beaucoup plus simple. Donc on donne toujours des excuses pour dire en quelque sorte, ce n'est pas de ma faute, c'est la grâce de Dieu qui n'est pas suffisante. C'est faux, la grâce de Dieu est suffisante. Jésus à la croix a crié, tout est accompli. Cependant, nous devons apprendre à utiliser chaque grâce que Dieu nous donne. Au lieu d'utiliser ce que Dieu nous donne, nous demandons toujours plus, mais nous n'utilisons pas. Nous voyons le monsieur qui avait reçu un talent, il a enterré carrément, il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais c'était déjà beaucoup un talent. Si on vous fait des conversions, un talent, c'est beaucoup, beaucoup. Mais comme on avait donné au premier 5 talents, au deuxième 2 talents, lui, on l'a donné un talent, il a enterré. Et il dit, mais le maître est méchant, je préfère enterrer. Mais un maître méchant, il va te donner un talent à fructifier. Il va te faire confiance à ce niveau-là. C'est faux. En quelque sorte, il y avait une certaine colère. Mais peut-être qu'on m'a donné un talent, on me prend pour qui? À légendaire. Et c'est comme ça que beaucoup, finalement, ne font rien. Il y en a même qui prient régulièrement dans les églises, qui chantent, qui travaillent. Mais au fond d'eux, il n'y a pas une consécration totale parce qu'ils estiment que, voilà, Dieu n'a pas donné. Il y en a même qui disent, bon, je n'ai pas beaucoup de signes que Dieu m'appelle. On leur donne un signe, un deuxième. Ils vont toujours demander des signes. D'ailleurs, il y a un moment donné, les gens ont demandé à Jésus, signe et miracle. Ils ont dit, mais je vais en faire combien? Donc, je fais des signes. Tu vous demandez toujours des signes. Je ne veux plus en faire. Je vais faire un seul signe. Ça sera ma mort et ma résurrection. Donc, l'homme est toujours là à discuter, à dire, c'est pas suffisant. Quand Adam a péché, il a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, au lieu de produire du fruit, avec la grâce qui a été faite, on va toujours trouver des excuses pour dire, ce n'est pas suffisant. Mais Dieu nous jugera, parce qu'il nous démontrera que c'était suffisant. Et comme j'ai dit, les exemples sont simples. Zacharie et Marie ont vécu le même ange. La même puissance de l'ange est venue. Mais Zacharie a trouvé que c'était exagéré ce qu'on lui disait. Marie a dit que la parole de mon Seigneur soit accomplie dans ma vie. Donc c'est deux réactions différentes. Et donc, le plus important, c'est de considérer que, avec le peu que Dieu me donne, je peux faire quelque chose. Il y a une femme qui a vu Jésus, il a dit, Jésus, mais heureuse les mamelles qui t'ont allaité, heureuse, heureux le sein qui t'a porté. Jésus a dit, heureux plutôt, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Combien de fois nous ne sommes pas sortis de certains cultes, de certaines réunions, ou bien d'une lecture, ou bien encore, on a visionné une vidéo chrétienne, on n'a pas dit, ah, c'est vraiment édifiant, ça m'a parlé, ça m'a secoué. Mais après, le problème c'est après tu fais quoi? Si c'est pour revenir encore dans la vie normale, ça c'est comme Jacques dit, tu te regardes dans le miroir, tu tournes, tu oublies qui tu es. Normalement, quand on reçoit la grâce de Dieu, ça doit changer nos vies, ça doit nous propulser vers une direction. On ne peut pas faire du surplace avec le Seigneur. Le Seigneur a beaucoup de choses à produire sur la terre, mais il veut passer par ses enfants. Mais ses enfants ne veulent pas se laisser utiliser. Et leur prétexte, c'est la grâce qu'on m'a donnée est petite. Si on m'avait donné la grâce, la voix qu'était le frère a, vraiment, ça m'aurait aidé à louer le Seigneur. Mais tu as aussi une voix que tu peux travailler. Il y a des gens qui ont des voix naturellement fines, mais il y a d'autres qui obtiennent ça par le travail. Donc, ils avaient quand même quelque chose. Donc, s'ils avaient travaillé, ils avaient utilisé la base que Dieu a donnée, ils allaient produire. Ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Si on dit qu'une exhortation, une lecture biblique nous a édifiés, nous a changés, ça doit nous amener en mouvement. Ça doit nous faire prendre des décisions. Ça doit nous faire prier, dire « Seigneur, je veux que ça s'accomplisse dans ma vie ». Ça doit, on a dit à Josué dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. Donc méditer, ça veut dire penser à la chose. Si une parole nous a touché, y penser pendant un temps, régulièrement, pour que ça fasse son travail en nous. C'est ça la grâce. Et bien des gens contestent Dieu en ne faisant rien, en profitant juste de ce que Dieu donne. Or, quand Dieu donne, c'est pour manifester sa gloire. Mais on est là toujours à faire des zigzags. On ne veut pas prendre une direction. On ne veut pas une fois pour tout dire, comme Paul, « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Quand le Seigneur s'est révélé à Paul, c'était une grâce. Parce que Paul était un persécuteur de l'Église. Mais quand Jésus se révèle à lui, Jésus ne le tue pas. Puisqu'il pouvait le tuer. Mais il dit, je veux que tu me serves. Mais avant qu'il lui dise ça, Paul a demandé à Jésus, mais qu'est-ce que tu attends maintenant de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Donc on ne peut pas, après une rencontre avec le Seigneur, ne pas se poser cette question-là. Qu'est-ce que je dois faire? Cette rencontre peut être obtenue par la lecture de la Bible, par la prière, en écoutant aussi quelqu'un prier, Dieu peut nous parler. En chantant, Dieu peut nous parler, mais ces rencontres-là doivent nous amener en mouvement, doivent nous amener à agir. On ne peut pas juste être satisfait comme quelqu'un qui a bien mangé. Non, ça doit nous amener en mouvement. Qu'est-ce qu'on fait de la grâce que Dieu nous a faite? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait du fait qu'on est ce qu'on est? Il y a un objectif de Dieu dans ça. Vous savez, Esther, on vient la voir par son oncle pour lui dire, on lui envoie le message par son oncle pour lui dire, est-ce que tu peux aller voir le roi? Parce qu'on a décidé d'éliminer tous les juifs. Toi, tu es de notre parenté. Tu es juif comme nous. Est-ce que tu ne peux pas aller plaider notre cause? Esther dit, mais si je vais là-bas et qu'il ne veut pas de moi, il va me tuer. Mardoché dit, ah, Esther, toi, tu n'étais rien du tout. Une orpheline, j'étais accueillie. Et par le miracle de Dieu, tu deviens la femme du roi. Maintenant qu'on te demande d'aller le voir, tu veux protéger ta vie. En réalité, c'est ce que le Seigneur nous dit encore aujourd'hui. Celui qui cherche à sauver sa vie, la perdra. On ne produit pas beaucoup de fruits parce qu'on veut protéger notre vie. On veut avoir une vie sans problème. Sans difficulté. Moi, je connais beaucoup de chrétiens qui sont des vrais chrétiens, mais ils se disent, moi, ces histoires-là de servir Dieu, ça crée trop de problèmes. je préfère rester en arrière. Mais oui, mais qui va servir alors? Le Seigneur dit dans Ésaïe 6, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Le Seigneur veut que nous produisions du fruit. Et Esther dit, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que c'est dangereux. On peut me tuer. Mardoché lui dit, Esther, Dieu est Dieu. Si toi tu n'agis pas, Dieu agira autrement. Et il faut comprendre ça aussi. Si nous, nous n'agissons pas, Dieu agira autrement. Mais nous, on aurait perdu. Nous, on serait passé à côté de la grâce de Dieu. On serait passé à côté de l'objectif de Dieu. Est-ce que vous vous imaginez entrer au ciel avec la tristesse de n'avoir pas servi Dieu comme il attendait? C'est pourquoi il a écrit, il essuiera nos larmes. Certains entrent au ciel dans la tristesse parce qu'au ciel, tu ne peux plus rien faire pour Dieu. Tout est donné par lui. C'est sur terre que Dieu, on peut encore faire quelque chose pour lui. Qui disent, ah, ma fille, ta foi est grande. C'est que sur terre. Au ciel, tout est donné par Dieu. Il attend qu'on fasse nos couronnes sur terre. Donc nous devons produire avec la grâce que Dieu nous a faite. Il y a un temps d'inconscience où on ne se rend pas compte de tout ça. Mais aujourd'hui, Dieu va nous éveiller là-dessus. On a des grâces. Il faut utiliser ça pour la gloire de Dieu au prix de sa vie. C'est quand on cherche à sauver sa vie, on va être sans problème. Voilà. Comme on dit, l'eau qui glisse partout. Non. La vie avec le Seigneur, ça nous amènera toujours des problèmes. Il y aura toujours des combats. Et Mardoché dit à Esther, est-ce que tu ne penses pas que Dieu t'a rendu reine parce qu'il savait que ce moment-là est arrivé? Réfléchissons, bien-aimés. Dans nos familles, nous sommes ceux qui sont sauvés, certains. Peut-être il y a d'autres encore, mais admettons qu'il n'en ait pas d'autres. Là où on a étudié, on connaît quelques-uns qui sont sauvés. La majorité n'est pas sauvée. Mais est-ce que nous, on est des cousins de Dieu pour qu'il nous sauve avant? Est-ce qu'on est ses neveux pour qu'il nous sauve avant? Pas du tout. C'est que Dieu, il s'est dit, si je sauve, un exemple, Jean-Claude, il sera beaucoup plus utile pour sauver 20 personnes que si je sauvais Germain. Maintenant que lui sauve maintenant Jean-Claude, il s'attend à ce que Jean-Claude porte du fruit pour sauver les autres. Jean-Claude dit, ah non, 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 moi j'ai déjà ma maison, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, je vais soigner ça, j'ai le salut aussi dans ma poche, j'attends seulement que tout ça passe. On se retrouve au ciel. Quelle déception pour Dieu. Dieu dit, s'il a choisi Esther, parce qu'il s'est dit, Esther aura le courage d'affronter le roi. Mais en arrivant au moment d'affronter le roi pour le salut de ses frères et sœurs, Esther dit non, c'est dangereux pour moi. Et Mardoché l'a fait réfléchir. Il dit, est-ce que, réfléchis parce que toi tu n'étais rien, inconnu, orpheline en plus, juive. Mais c'est toi qu'on choisit comme reine. Tu ne penses pas que c'est Dieu qui a permis ça pour que tu sauves les autres. Qu'est-ce que Joseph a dit? Ce n'est pas vous qui m'avez fait du mal. C'est Dieu qui a permis tout ça pour que je vous sauve moi-même. Joseph a compris que finalement la prison était une grâce. Qu'on le vende, c'était une grâce. Il a compris tout ça, qu'il y ait des problèmes avec la femme de Potiphar, c'était une grâce. Aujourd'hui, on discute, on aimerait que Dieu me donne des millions, là, je vais le servir à l'aise. Que Dieu me donne de bons partenaires, c'est là que je vais le servir. Non, ce que tu as, ça peut servir. Amen. La prison a servi à Joseph. Dans la prison, il a fait des prophéties, il a fait des démonstrations. On a parlé à Pharaon de Joseph. Chez Potiphar, il a fait des démonstrations, on l'a mis chef. Donc, il y a quelque chose à faire avec Dieu. Il ne faut pas rester dans le surplace, à dire je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas le bon mari, je n'ai pas la bonne femme, je n'ai pas les bons enfants, je n'ai pas les bons parents. Non, tu as Jésus, c'est la grâce suprême. Avec Jésus, tu peux tout faire. Je n'ai pas les bons frères, je n'ai pas les bonnes sœurs. Non, tu as Jésus. Et c'est une grâce suprême. Moi, je n'ai pas les dons de prophétie. Si j'avais ça, le ministère sera complet. Non, le ministère est déjà complet avec Jésus-Christ.
Amen.
C'est lui qui touche. Remarquons dans la Bible, Dieu a utilisé des serviteurs de plusieurs manières. Il n'a pas utilisé avec une seule manière. Salomon a fait 40 ans sans guerre. Avec quoi? Comme arme, la sagesse.
Amen.
Mais David a fait 40 ans aussi, tout en gardant son royaume bien, mais par les guerres. Avec la force de qui? De Dieu lui-même. Et il appelait ça les guerres de l'éternel. On voit Isaac, quel doux, l'agneau de Dieu. Doux Isaac, ne discutant pas. On prend un puits, il va chercher un autre puits. On prend un puits, mais c'est les gens eux-mêmes qui viennent dire, Isaac, nous te craignons parce que Dieu est avec toi. Sans qu'ils se battent, sans que... Pourtant, Abraham, lui, il a fait la guerre, il a battu trois rois. Mais Isaac n'a pas fait ça. Chacun, Dieu les a utilisés différemment. Jacob, Dieu l'utilise dans l'intelligence, dans la détermination à être dans son alliance. Et finalement, il devient hyper riche parce que il a travaillé, il a accepté de se faire exploiter. Aujourd'hui, pour nous, quand quelqu'un nous exploite, nous perdons. C'est faux. Dieu peut permettre qu'on t'exploite parce que tu vas récupérer toutes ces qu'on t'exploite plus tard.
Amen.
Mais c'est que s'il te demande directement de faire ce travail-là, tu ne vas pas vouloir. Il te met sous un mauvais maître qui va t'exploiter pour que tu sèmes et tu vas récolter ça plus tard.
Amen.
Mais tout ça, nous ne voyons pas parce que nous sommes toujours à là à envier les autres, à voir, je n'ai pas suffisamment. On a la grâce de Dieu. On doit l'utiliser. On a des voitures, on doit les utiliser.
Amen.
On a des maisons, on doit les utiliser. On a des enfants, on doit les utiliser. Pour la gloire de Dieu. On a des frères et sœurs. C'est la première personne que nous devons recommander à Dieu dans la prière. Mais on est toujours là, compliqué. Ah, si je pouvais, on va lire une histoire d'un réveil qui s'est passé dans tel endroit. Ah, sinon on vivait ça. Oui, mais déjà ce que tu as, utilise.
Amen.
Je ne suis pas contre hein, qu'on veuille vivre de grandes choses, des résurrections. Le Seigneur nous les a promises. Mais ce qu'il t'a déjà donné, utilise. Quand, dans Marc 14, il y a la dame qui vient verser le parfum sur Jésus-Christ. Dans Jean 12 aussi. Il vient verser le parfum sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, puisque les gens ont contesté, mais tout ce parfum-là pouvait servir, si on vendait ça, c'est des parfums qui coûtaient cher, ça pouvait servir à nourrir beaucoup de pauvres. Jésus dit, vous ne comprenez rien, cette femme a fait un acte spirituel, il m'a embaumé, parce que, vous savez que le troisième jour, quand ils sont venus pour embaumer Jésus, il n'était plus là. Donc, il fallait lui faire l'embaumer avant. Donc, cette femme-là, mettant, Jésus dit, mais il m'a embaumé pour ma sépulture, il m'a mis le parfum à l'avance. Vous ne comprenez pas d'ailleurs. Partout, l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Parce que cette femme a donné ce qu'elle avait. Elle a fait ce qu'elle a pu, ce que Jésus a dit. Il y a une veuve qui a donné deux pièces. Elle a donné ce qu'elle avait. Elle a dit, ah mais si j'avais beaucoup plus d'argent, ben là je donnerais les offrandes. Mais non, tu as quelque chose. Tu peux donner à Dieu. Nous, quand on était étudiants au Maroc, ben, l'étudiant est habitué toujours à être assisté. Et donc, on ne donnait même pas les offrandes, ben, puisqu'on avait une église voilà, qui avait un appartement qu'on louait aux Américains. Donc, cet argent-là permettait le fonctionnement de l'église. Et personne ne donnait les offrandes, ainsi de suite, puisqu'on est des étudiants pauvres. Dieu a fait grâce que nous devenons responsables. On a dit, c'est fini ces histoires-là d'étudiants. Nous, on va amener tout le monde à donner les offrandes. Non, pas parce qu'on en a besoin, puisque l'appartement a rapporté suffisamment beaucoup d'argent pour gérer toutes les activités de l'église, mais en fonction de l'amour pour Dieu et de l'adoration de notre Seigneur. Nous-mêmes, on était étudiants, on a commencé à donner beaucoup d'argent au Seigneur, pas parce que l'église en avait besoin, mais parce que c'était l'adoration que nous voulons lui rendre. Mais c'était moi dire, ah non, moi je suis étudiant, je n'ai pas, non, tu as quelque chose à donner au Seigneur. On a la grâce de Dieu. Il faut l'utiliser. Vous savez, beaucoup ont vécu de grandes expériences. On va lire par exemple dans Jean 2, Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, au verset 23. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de Pâques, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Donc ces gens-là ont vécu les grands signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car ils connaissaient le fond de leur cœur. Donc on dit que beaucoup de gens ont acclamé Jésus, ils ont suivi Jésus, parce qu'ils ont vu les miracles qu'il a accomplis, mais leur cœur n'était pas changé. Ils n'ont pas profité de la grâce de Dieu. Leur cœur n'était pas changé. Et Jésus, dans Marc 6, il marche sur l'eau, il calme la tempête, les disciples sont étonnés. Jésus dit, mais pourquoi vous vous étonnez? Donc, quand vous m'avez vu multiplier le pain, vous n'avez pas compris qui je suis. Et il est écrit dans les Écritures, parce qu'on ne va pas tout lire, il y a beaucoup de choses à lire, que le cœur des disciples était endurci. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils avaient vécu la multiplication des pains, ça ne les avait pas conduits à comprendre que Jésus était le Fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur. Donc, que nos cœurs ne soient pas endurcis. On vit des grâces, mais ça ne nous travaille pas, ça ne nous change pas. Il faut que la grâce de Dieu, quand nous l'expérimentons, ça nous change. Ça nous amène à la repentance, ça nous amène à la consécration, ça nous amène à prendre des décisions pour l'avenir. Ça nous amène au sacrifice. La grâce suprême, c'est Jésus qui l'avait. Il a dit que l'Esprit était en lui sans mesure, dans Jean 3, 34. Il avait reçu l'Esprit sans mesure. Et bien, ça l'a conduit où? À la croix. Aujourd'hui, les gens veulent la grâce pour leur bien-être. La grâce doit nous conduire à être un canal pour les autres. Et ça nous amènera au sacrifice, forcément. Comprenons la Bible, comprenons ça, bien-aimé. Dieu nous fait grâce, c'est pour que cela produise du fruit pour sa gloire. Arrêtons de trouver des excuses. Il y a quelque chose à faire avec le pain que nous avons. Il y a quelque chose à faire. Dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. C'est l'histoire de la multiplication des pains. Bon, on peut lire ça aussi dans Marc 6. Hein. Je préfère Marc 6. Marc 6, 33. Mais beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les bourgades, on a couru à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner longuement. Il se faisait déjà tard. Les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Cet endroit est désert, et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs à s'acheter de quoi manger. » Mais Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui demandaient, « Faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous leur donnions à manger ?» Jésus reprit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils allaient se renseigner et revint leur dire, il y a cinq pains et deux poissons. Et finalement, Jésus les a fait asseoir et il a multiplié tout cela. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Donnez-leur vous-même à manger. Jésus ne leur a pas dit, allez chercher de l'aide. Aujourd'hui, il y a des gens qui servent Dieu et qui vont voir des riches dans leur quartier ou dans leur connaissance pour dire, écoute, moi, je suis un serviteur de Dieu, j'ai besoin d'argent. Ce n'est pas normal. Jésus ne peut jamais te demander de faire de telles choses. Il dit, nourrissez-les vous-même. Jésus va te dire, toi-même, nourris-les. Mais tu vas, mais bien sûr, tu vas répondre, mais je n'ai rien. Mais lui, il sait pourquoi il te dit ça. Il veut que tu comprennes qu'en toi, il y a la grâce pour résoudre le problème que lui-même te pose. C'est ce que Jésus voulait leur faire comprendre. Quand je vous donne un ordre, il y a la grâce pour résoudre ça, pour répondre à cet ordre. Allez faire de toutes les nations des disciples, il y a ça. Mais c'est vrai, tu vas dire, mais moi, je ne fais pas les choses comme Renard Bonquet, je n'ai pas tout ça. Oui, mais commence par ce qu'on t'a donné. Commence par les gens du coin de la rue. Pourquoi tu vas tout prix un stade d'abord? Commence par le commencement. Il y a la grâce. Et les disciples ont compris, ils ont eu le courage, parce qu'on peut dire, mais oui, mais ils n'ont fait qu'obéir à l'ordre. Oui, mais pour obéir à certains ordres, il faut avoir la foi. Ils ont eu le courage de lui ramener 5 pains et 2 poissons, sachant qu'il faut nourrir 5000 personnes. Ils ont dit, ah, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais on lui amène ça. Donc ce que nous avons, nous pouvons amener au Seigneur, dit Seigneur, moi je ne sais que parler. Donc je n'ai pas d'autre moyen. Donc toi, occupe-toi de tout ce qui reste. Mais moi je t'amène ma foi. Moi, je t'amène ma maison. Moi, je t'amène ceci. Mais toi, occupe-toi du reste. Ils ont amené les 5 pains et 2 poissons. Et ça nourrit beaucoup de gens. Nous voyons combien, quand quelqu'un saisit que ce qu'il a, c'est la grâce de Dieu pour que ça porte beaucoup de fruits, ça porte beaucoup de fruits. C'est quand quelqu'un ne saisit pas qu'il va tourner en rond, il va enterrer le talent et il répondra au jugement plus tard. Nous devons être sérieux avec la grâce de Dieu. Sérieux. Nous laisser utiliser comme un canal parce que Dieu nous a sauvés avant les autres parce qu'il y a un objectif. Dieu nous a donné une taille, il nous a donné un corps, il y a un objectif. Tout ça doit porter du fruit pour le Seigneur. Il ne suffit pas de vivre de grandes expériences. Ça doit nous changer. Ces gens-là, dans Jean chapitre 2, ils avaient vécu des grandes expériences, ça ne les avait pas changés. Les disciples avaient vécu la multiplication des pains, mais ils n'avaient toujours pas compris qui est Jésus. Parce qu'ils ne saisissaient pas la grâce. Vous savez, parmi nous, il y a des gens qui se sont convertis parce qu'ils ont vécu une expérience extraordinaire. Mais il y a d'autres qui se sont convertis juste par un verset biblique. C'est tout. Ils n'ont pas demandé beaucoup. Juste un verset les a réveillés, ça les a sauvés. Donc, ce qu'on peut appeler en termes humains une petite grâce, mais eux, ça les a changés. Ils sont devenus des vrais chrétiens. Il y en a qui ont vécu des. Nous, on était. Ça fait longtemps qu'on est des choses de Dieu. Il y a des temps où on avait des sœurs, des frères qui prophétisaient, qui faisaient. Aujourd'hui, ils sont dans le monde. Ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas vécu la grâce de Dieu. Mais il y en a qui n'ont jamais prophétisé, qui n'ont jamais parlé en langue. Aujourd'hui, ils sont toujours dans le Seigneur. Ils sont toujours à marcher dans la vérité, dans l'évangélisation, dans la gloire de Dieu, mais ils n'ont pas vécu certaines expériences que d'autres ont vécues qui sont aujourd'hui dans le monde. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu fais de la grâce de Dieu. Ce n'est pas ce que tu vis comme expérience, mais qu'est-ce que chaque expérience fait en toi. C'est ça qui compte. Comme dans la vie, il y a des gens, tu lui donnes 100 rendre. Il est hyper content, il est joyeux, il est souriant, il te dit merci. Il y a des gens, tu lui donnes 15 000 rien, il dit, ah, c'est pas suffisant ça. Pas de merci, il fait demi-tour. Donc cette grâce-là ne change pas son cœur. Mais il y en a un qui a de ça, il dit, mais je ne m'y attendais pas. Merci mon frère, merci ma soeur, content. Et dans le christianisme, c'est la même chose qui se produit. On a tant de grâce, mais on ne fait rien. Et on accuse indirectement Dieu en disant, ben, il ne m'a pas donné beaucoup. Et ben, on ne le dit pas clairement, mais c'est au fond de nous. On attend qu'il rajoute pour qu'on fasse quelque chose. Non, Dieu dira toujours, nourrissez-les vous-même. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Parce que Gédéon commençait à dire, mais moi je suis petit. Et moi, ma famille est la plus petite. Et je vais faire comment? Il dit, mais va avec la force que tu as. C'est moi qui serai avec toi. Moïse a voulu. On dit, va. Oh, mais non, je ne sais pas parler. Toutes sortes d'arguments. Oh, mais qu'est-ce que je vais dire aux anciens? On lui dit, mais mets la main là. La peau devient lépreuse. Mets encore la main, ça part. Agis avec le bâton. Malgré tout ça, Moïse continue à discuter. Je ne sais pas parler. C'était pas prévu. Aaron n'était pas prévu dans le système de Dieu pour la libération. Allez voir le pharaon. C'est parce que Moïse, quand vous allez retourner à la maison, allez relire. Il a insisté pour dire, je ne sais pas parler. J'ai un problème avec le langage. Malgré le fait que Dieu lui dit, c'est moi qui ai créé la bouche. Il a continué. Dieu a dit, ben, écoute ton frère Aaron, je veux, c'est lui qui va parler. Toi, tu seras comme Dieu pour lui, et lui, il sera le prophète. C'est lui. Mais ce n'était pas prévu comme ça. C'était à Moïse de faire le boulot. Et on a vu que plus tard, Aaron a failli lui créer des problèmes. C'est pour nous dire que quand on n'utilise pas la grâce de Dieu, on veut toujours lutter, dire, mais non, ce n'est pas suffisant. Mais Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Mais ça nous risque de nous créer des problèmes plus tard. Utilisons la grâce de Dieu. Je veux clôturer avec Matthieu 15. Matthieu 15, comme d'habitude, les grandes affaires viennent des gens auxquels on ne s'attend pas. Comme Jésus avait parlé du centenier romain, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Matthieu 15. À partir du verset 21. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Cette femme dit à Jésus, « Mais même les miettes, nous qui venons des pays difficiles, donc quand on avait des chiens, eh bien, c'est nos restes qu'ils mangeaient. Hein. Ce n'était pas comme en Europe où ils ont fait même la publicité de la nourriture des chiens à la télé. Donc c'est, vous mangez, les restes ils mangent, mais les chiens étaient toujours costauds. C'est ce que cette femme dit à Jésus. Parce que Jésus lui dit, « Moi, je suis venu pour les enfants d'Israël. Toi, tu es une étrangère. » Jésus est en train de la provoquer. Et c'est ce que Jésus fait avec nous tous. Tu pries, rien ne se passe. Tu dis, mais à moi, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Non, il veut voir, est-ce que tu crois vraiment qu'il est là? Est-ce que tu crois vraiment que tu es un enfant de Dieu? Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu ne vas pas laisser faire, tu vas continuer. Si tu crois vraiment à cela, tu vas. Si tu crois à l'ordre, Matthieu 28, 18 à 20, Marc 16, 15 à 17, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ce que... Si tu crois vraiment, tu vas continuer. Non, Seigneur, tu ne peux pas mentir, tu l'as dit. On va aller jusqu'au bout avec toi. Comme Jacob, il a dit, mais je ne te lâche pas tant que tu ne m'as pas béni. Voilà. La femme dit au Seigneur, mais secours-moi. Déjà, ça commence par les disciples qui la chassent, qui veulent la chasser. Et Jésus lui-même enchaîne. Je suis venu pour les bébés perdus d'Israël. Oh, viens, c'est pas grave, mais c'est court. Jésus dit, mais on ne peut pas donner la nourriture des chiens. C'est-à-dire que la grâce que moi j'amène, c'est pour les enfants. C'est-à-dire les enfants d'Israël. On ne peut pas donner ça aux chiens. Petit chien. La femme dit, même les miettes des enfants d'Israël suffisent pour guérir ma fille. Jésus a dit, voilà, c'est que je viens m'entendre. Quelqu'un qui comprend que même la petite grâce qu'il a peut produire beaucoup de choses. Comme Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Jésus a vanté les gens qui avaient une grande foi. Mais il n'a jamais dit, il faut avoir une grande foi. Il a dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous pouvez déplacer une montagne. Il veut dire par là, la petite foi, quand on l'utilise, ça nous fait faire un premier pas. Ensuite, le reste, ça se prend tout seul. C'est important, bien-aimé. Nous avons, comme un serviteur de Dieu a dit, nous avons un pont solide, c'est Jésus. Même avec une petite foi, quand tu traverses sur le pont solide, même si tu as peur, est-ce que le pont va tomber?
Non.
Tu peux avoir peur comme tu veux, tu marches à quatre pattes, tu vas arriver au bout, parce que le pont ne dépend pas de ta peur. Il est bien solide. Mais tu peux être très courageux et traverser un pont en liane un pont en bois qui commençait déjà à flancher, tu vas tomber avec ton courage, tu tombes dans l'eau parce que le pont, lui, n'est pas solide. Mais avec une petite foi sur le pont solide qui est Jésus, on peut faire des exploits. Donc commençons par utiliser la petite foi pour faire des choses. Bref, je veux dire, bien-aimés, que nous ne sommes pas à l'heure de la distraction. Nous avons tous les signes que la fin des temps est là. Nous sommes une génération qui ne doit pas dormir, qui doit comprendre que nous sommes appelés à vivre au ciel. Tout ce que nous pouvons trouver extraordinaire ici, au ciel, c'est des milliards de fois extraordinaire. Il n'y aura même plus de nuit, car la lumière de Dieu nous éclairera. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 21. Les portes de la Nouvelle Jérusalem sont en perles. Les fondations en pierres précieuses. Si Dieu nous a donné ce qu'il nous a donné, c'est pour Matthieu 28, 18 à 20. Aller faire de toutes les nations des disciples. C'est pour Marc 16, 15 à 17. Contribuer à ce que la bonne nouvelle soit prêchée à toute la création. Ce n'est pas pour se constituer un petit paradis personnel. C'est pour que tout cela serve à la gloire de Dieu. Les gens verront et comprendront que Dieu existe. Prions que le Seigneur nous aide à utiliser chaque grâce, à apprendre à se repentir quand nous sommes touchés, à apprendre à prendre des décisions pour dire, Seigneur, je veux que désormais ma vie serve à ta gloire. Je viens d'entendre un témoignage. On entend des témoignages. On entend le témoignage d'Esther Gulshan qui était paralytique depuis le jeune âge jusqu'à l'âge de 15 ans. Elle avait les membres atrophiés. On s'occupait d'elle depuis l'âge de 3 ans, 4 ans. Membres atrophiés. Et à l'âge de 15 ans, son père l'a amené à la Mecque. Elle était fils d'un imam. Rien ne s'est passé. Avant de l'amener à la Mecque, il avait amené chez un docteur en Angleterre. Le docteur lui a dit, je ne peux rien faire pour votre fille. Il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose. Le père s'est fâché. Il a dit, mais qu'est-ce que Jésus peut faire? Il l'a amené à la Mecque. Ils ont fait toutes les cérémonies. Rien ne s'est passé. Et là, ils sont rentrés au Pakistan. Et là, lui-même, le père est tombé malade et il est mort. Avant de mourir, il a changé de langage. Il n'a pas parlé d'Allah ou de l'islam. Il a dit à sa fille, cherche Dieu, de toute manière, il te guérira. Et la fille a commencé aussi à prier Dieu, sans prier l'islam. À dire, Dieu, pourquoi tu m'as créé comme ça? Dans quel but je peux être comme ça? Oui, même les païens réfléchissent. Mais pourquoi? Pourquoi je suis ce que je suis? Il y a un objectif. Elle a prié comme ça et puis elle a entendu la voix qui lui a dit, qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts, qui a donné la vue aux aveugles. Je suis Jésus, le fils de Myriam. Regarde dans le Coran, parle-moi. Désormais, cette fille-là a commencé à prier que Jésus, le prophète, pour le moment, pour cet moment-là, elle priait comme ça parce qu'elle a vu ça dans le Coran. Guéris-moi. Elle a fait 3 ans comme ça encore en priant. Et à la 3e année, à la fin, il dit, Jésus, tu m'as dit que tu guérissais. Si tu ne veux pas me guérir, dis-le-moi, ça fait 3 ans que je te prie. Combien de chrétiens laissent passer la grâce? Ils disent, ah bon, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, nous devons poser la question au Seigneur. Tu as promis telle chose. Si tu ne veux pas me faire pour moi, dis-le-moi. Je ne peux pas traîner comme ça à réclamer. On doit aller jusqu'au bout avec le Seigneur comme Jacob. Et c'était 4h du matin. Le roi des rois, Jésus, lui apparaît. En toute lumière, elle avait une robe verte. La robe devient blanche. Physiquement, même après, c'est resté blanc. Jésus lui dit, lève-toi et marche. Ah non, je ne peux pas. Jésus dit, c'est moi qui le dis. Et les membres de la fille ont grossi instantanément. Elle s'est levée. Elle a embrassé le Seigneur. Et sa vie était transformée. On peut lire des témoignages comme ça. Dire, ah, gloire à Dieu, mais oui. Mais après la femme, la fille, toute sa vie a été consacrée à Dieu. Elle a perdu tout l'héritage familial. Quand je dis l'héritage, c'est des maisons, des entreprises. Ce que son père avait laissé, les frères ont tout bloqué parce qu'elle est devenue chrétienne. Elle n'a pas voulu changer. Elle a fait la prison à cause de Jésus. Et que la grâce de Dieu, ça peut amener loin. Aujourd'hui, la grâce de Dieu, ça rend les gens, ils mangent bien, ils sont bien. Non, la grâce de Dieu t'amènera au sacrifice. Elle a tout perdu. Elle a vécu sans se marier. Pourquoi? Parce qu'elle était remplie de la grâce de Dieu. Ça fonctionnait tellement pour sauver les gens qu'elle n'avait pas le temps pour autre chose. Tout ce qu'on voit là, les gens disent, Seigneur, il m'a béni, il m'a donné une maison. C'est, oh, tout ça, c'est des rigolades. La grâce de Dieu. Parce que même les païens ont tout ça. La vraie grâce de Dieu va nous amener à fonctionner pour Dieu.
Amen.
Même les païens, tout ça. D'accord, il nous donne une maison, il nous donne un enfant. Merci Seigneur. Mais Seigneur, moi je réclame le meilleur. Je veux voir mon quartier se convertir.
Amen.
Je veux voir. Voilà, moi je réclame ça. Quand on écoute de tels témoignages, c'est pas la bonne chose d'applaudir. On écoute, on dit Seigneur, nous tous nous sommes des enfants. Pourquoi moi je veux vivre comme un homme charnel? Je veux vivre aussi ta grâce pleinement et vivre pour toi comme Esther de Chan a vécu toute sa vie pour toi. Prions que le Seigneur nous aide à nous consacrer, sinon à nous reconsacrer à lui. Pour ceux qui veulent, disons-lui que Seigneur, je veux vivre pleinement pour toi et non plus pour moi, afin de porter du fruit pour toi.